VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 23 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Les États-Unis profondément inquiets après la mort en détention d'un autre dirigeant de l'opposition en Gambie.
Le secrétaire d'État John Kerry, aujourd'hui au Nigeria, la lutte contre Boko Haram à l'ordre du jour.
À N'Djamena, le syndicat des enseignants du Tchad appelle à une grève pour aujourd'hui.
En Afrique du Sud, à l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a pris hier le contrôle de la municipalité de Johannesburg.
Une délégation officielle américaine s'entretient aujourd'hui et demain à Ankara avec les autorités turques.
Ici aux États-Unis, la fondation Clinton au centre d'une controverse, des réformes envisagées en cas d'élection d'Hillary Clinton en novembre. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis ont fait part hier de leurs préoccupations après la mort en prison d'un membre de l'opposition gambienne, le deuxième du Parti démocratique unifié à mourir en détention depuis le début de la répression contre les manifestations. Précisons de Jean-Roger Bion.
Solo Kruma avait été arrêté le 9 mai avec 14 personnes lors d'un rassemblement en faveur des réformes électorales. Il est décédé samedi dans un hôpital de Banjul où il avait été admis le 8 août après avoir subi une opération chirurgicale dont on ignore la nature, indique le PDU, son parti. Sa famille n'avait autorisé aucune intervention selon le PDU. Les États-Unis sont vivement préoccupés par la mort de Solo Kruma et inquiets des informations de mauvais traitements et de tortures contre les personnalités de l'opposition en détention, a déclaré le département d'État. Washington appelle à une enquête indépendante sur toutes les allégations crédibles de torture et de mauvais traitements et demande aussi à la Gambie de libérer tous les prisonniers politiques et surtout de cesser la répression à l'encontre de l'opposition. Les manifestations contre le président Yahya Jammeh arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1994 sont rares en Gambie. Les prochaines élections doivent se tenir en décembre. Une cinquantaine de manifestants, dont Ousseynou Darbo, le chef de file du PDU, ont été arrêtés en avril et en mai. 11 militants de l'opposition ont été en outre condamné en juillet à des peines allant de l'amende à 3 ans de prison.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est attendu ce mardi au Nigeria, où il discutera de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la lutte contre la corruption. Les relations entre Washington et Abuja se sont nettement améliorées depuis l'élection du président Muhammadu Buhari. Précision de Michel Joseph.
On s'attend à ce que le chef de la diplomatie américaine ait des entretiens avec le président Buhari à Abuja, la capitale, avant de se rendre dans la ville septentrionale de Sokoto pour parler de la tolérance. Sous le président Goodluck Jonathan, les autorités nigérianes se plaignaient du refus des États-Unis de leur vendre des armes pour lutter contre les islamistes de Boko Haram, dont l'insurrection a fait quelque 20 000 morts et 2,7 millions de déplacés. Washington avait alors expliqué cette réticence par des allégations de violation des droits humains dans les opérations des forces de sécurité nigérianes contre les insurgés. Des drones américains basés au Cameroun voisin prêtent main forte aux troupes régionales engagées dans la lutte contre Boko Haram. Par ailleurs, et selon un responsable militaire américain s'exprimant sous anonymat, un petit groupe de soldats américains a été envoyé à Maïdougouri, berceau du groupe Boko Haram.
Et Nigeria toujours, des centaines de personnes sont descendues hier sur le palais présidentiel à Abuja pour exiger du gouvernement qu'il fasse plus pour secourir les 200 jeunes lycéennes enlevées en 2014 à Chibok. Le ravisseur Boko Haram a publié la semaine dernière une nouvelle vidéo montrant une cinquantaine de ces jeunes filles. Le groupe terroriste a annoncé la mort de plusieurs d'entre elles et demandé un échange de prisonniers contre celles qu'il détient encore.
Au Tchad, le syndicat des enseignants du Tchad, section régionale pour la commune de N'Djamena, appelle les enseignants en général et ceux des services centraux en particulier à observer immédiatement une grève ce mardi. Le syndicat exige du gouvernement le paiement des salaires du mois de juillet, nous signale notre correspondant André Kotmajingar.
En Zambie, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir censuré 3 organes de presse, une chaîne télé et 2 radios privées, au lendemain de la réélection d'Edgar Lungu à la présidence. Chérubin Dorsil pour les détails.
Un communiqué officiel a indiqué hier le retrait des licences de fonctionnement de Movie TV, Radio Comboni et Radio Itezi. La mesure, qui est entrée en vigueur dès sa publication par l'autorité zambienne de l'audiovisuel, IBA, est décriée par l'opposition politique. L'IBA reproche aux trois stations d'avoir violé les règles établies pour la couverture du scrutin présidentiel. Par exemple, Movie TV est accusé de désinformation et d'incitation à la violence lorsque la chaîne a fait état d'actes de vandalisme commis par les partisans du président sortant, aujourd'hui réélu. Edgar Lungu devait prêter serment ce mardi, mais la cérémonie a été reportée en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle sur un recours introduit par son rival Hakainde Hichilema. Ce dernier accuse le gouvernement zambien d'atteinte à la liberté d'expression. Lungu a été réélu avec juste un peu plus de 50% des suffrages le 11 août dernier.
L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition en Afrique du Sud, a pris hier le contrôle de la municipalité de Johannesburg, le poumon économique du pays, aux dépens du Congrès national africain. L'ANC avait obtenu le plus grand nombre de voix lors des municipales. L'Alliance démocratique a réussi à rallier autour d'elle plusieurs formations minoritaires pour former une coalition forte de 144 sièges contre 125 à l'ANC de l'ancien maire Park Stowe. L'Alliance a aussi pris le contrôle de Pretoria, la capitale, et de la municipalité de Nelson Mandela Bay qui englobe Port Elizabeth, important centre manufacturier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre turc Binali Yildirim a semé la confusion sur les auteurs de l'attentat de Gaziantep qui a fait 54 morts samedi. Il a dit totalement ignorer leur identité, une déclaration qui semble contredire celle du président Erdogan. Ce dernier avait parlé d'un adolescent ayant entre 12 et 14 ans, probablement issu du groupe État islamique. Hier, les chaînes de télévision turques ont signalé que l'artillerie turque a bombardé des positions de la milice kurde PYD et du groupe État islamique dans le nord de la Syrie.
Une délégation officielle américaine s'entretiendra aujourd'hui et demain avec les autorités turques dans le cadre de l'enquête sur l'ex-imam Fethullah Gulen, accusé par Ankara d'être derrière le putsch manqué du 15 juillet. Nanit Talani fait le point.
Composée de quatre responsables du ministère de la Justice et du département d'État, cette délégation aura des entretiens juridiques à la veille de la visite du vice-président américain à Ankara, a ajouté cette source sous couvert d'anonymat. Après ces entretiens prévus mardi et mercredi, une équipe du ministère turc de la Justice devrait également se rendre aux États-Unis. Après la tentative de coup d'État, le gouvernement turc avait demandé aux États-Unis l'arrestation urgente et l'extradition de Fethullah Gulen, résidant sur le sol américain depuis 1999. Le ministre turc de la Justice, Bekir Bozdag, avait fait une deuxième demande début août aux États-Unis pour l'arrestation de Gulen. Âgé de 75 ans, exilé volontaire aux États-Unis, cet ex-imam est accusé d'avoir fomenté le coup d'État manqué contre le président turc, des accusations qu'il a toujours niées. Ankara demande avec insistance l'extradition de Gulen, mais Washington ne montre pas d'empressement à agir sur ce dossier.
Les États-Unis ont de nouveau mis en garde hier le régime syrien, assurant qu'ils étaient prêts à abattre des avions qui menaceraient les troupes de la coalition internationale contre le groupe État islamique en Syrie. Selon le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, cette mise en garde concerne également les appareils russes. La semaine dernière, Washington a envoyé près de Asakeh, dans le nord-est de la Syrie, des avions pour protéger ses forces spéciales qui conseillent des combattants kurdes visés par deux jours d'affilée par des bombardements du pouvoir.
Syrie toujours, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, est en colère. Selon lui, la situation à Alep pourrait provoquer une catastrophe humanitaire sans précédent depuis le début de la guerre dans ce pays. Arzuma Compaoré.
Monsieur O'Brien a fortement exprimé sa colère hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU face à la situation à Alep qui subit une catastrophe humanitaire sans précédent. Il a également déploré qu'aucun convoi humanitaire n'ait pu entrer dans les localités assiégées de Syrie pendant le mois d'août. Le diplomate a exhorté une nouvelle fois tous les belligérants à appliquer un cessez-le-feu ou au moins une pause de 48 heures dans les combats afin de permettre l'envoi de 50 camions de l'ouest vers l'est si la sécurité des convois est assurée. et d'un premier convoi de 20 camions depuis la Turquie directement vers l'Est. Il a aussi demandé instamment aux membres du Conseil et en particulier la Russie et les États-Unis de se mettre d'accord pour favoriser cette trêve. L'ONU a demandé dimanche aux autorités syriennes d'autoriser des convois à aller secourir pendant le mois de septembre plus d'un million de civils dans 34 localités assiégées ou difficiles d'accès. Les Nations Unies attendent la réponse pour le 30 août.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama, tout juste rentré de vacances, doit se rendre aujourd'hui en Louisiane. Il espère à cette occasion faire taire les critiques lui reprochant de ne pas être allé plus tôt au chevet de la population de cet État du Sud touché par des inondations historiques. On déplore au moins 13 morts et d'importants dégâts matériels.
Donald Trump a décidé de reporter l'important discours sur l'immigration qu'il devait prononcer jeudi à Denver, dans le Colorado, a annoncé un membre de son équipe de campagne électorale. Le candidat républicain affirme que sa position sur cette question épineuse de l'immigration demeure la même et qu'elle ne varie pas au gré des circonstances et des sondages. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le prestigieux cabinet de conseil en stratégie américain McKinsey a révélé que dans les 210 sociétés africaines, cotées dans 14 bourses, 5% de femmes sont directrices exécutives et 15% d'entre elles occupent des places au sein des conseils d'administration. Les Émirats arabes unis vont déposer $1 milliard à la Banque centrale d'Égypte pour une durée de 6 ans. Le Caire connaît une forte pénurie de dollars et une chute de ses réserves de change à la Banque centrale. Le Fonds monétaire international FMI devrait avaliser un prêt de $12 milliards sur 3 ans. En contrepartie, les autorités égyptiennes devront adopter des réformes économiques drastiques et réduire leurs coûteuses subventions publiques. Après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, les monarchies du Golfe ont versé quelques $20 milliards en aide à l'Égypte, mais les autorités du Caire peinent toujours à relancer une économie en lambeaux. Enfin, dans le domaine d'assurance, le numéro 2 mondial de la réassurance suisse RE a nommé le Zimbabwéen Tavaziva Madzinga, patron de la zone Afrique-Moyen-Orient du réassureur suisse. Monsieur Madzinga était jusque-là directeur régional de la compagnie d'assurance Old Mutual pour l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Match de barrage, retour de la Ligue des Champions ce mardi.
Monaco et Rome sont bien partis pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions après avoir marqué à l'extérieur à l'aller contre respectivement Villarreal et Porto. Mais ces deux clubs ne doivent pas passer à côté de leur match retour ce mardi. Quant à Manchester City de Pep Guardiola, ce club est déjà pratiquement qualifié après son succès 5-0 en Roumanie contre le Steaua Bucarest. Le tirage au sort de la phase de groupe, je vous le rappelle, Idrissa, aura lieu après-demain à Monaco. À suivre dès 18h45, temps universel, l'Apoel Be'er Sheva, le club israélien qui accueille le Celtic de Glasgow. Les Écossais l'avaient emporté 5-2 à l'aller. Le Viktoria Plzeň, le club tchèque, face au Ludogorets, le club bulgare. Les Bulgares qui l'ont emporté 2-0 à l'aller. Villarreal qui se déplace à Monaco après la défaite 2-1 à l'aller en Espagne. L'AS Rome qui accueille au Stade Olympique de Rome le FC Porto après le match nul 1-1 au Portugal. Enfin le Legia Varsovie, le club polonais contre Dundalk. Les Polonais l'avaient emporté 2-0 à l'aller.
L'Astana Diyarra en Turquie, c'est fait, ou presque.
Galatasaray a trouvé un accord avec l'Astana Diyarra pour un contrat de 3 ans, mais sa venue est conditionnée au règlement des 10 millions d'euros d'amende que l'international français de Marseille doit régler au Lokomotiv Moscou. L'Astana Diyarra, 31 ans, avait signé en 2013 un contrat de 4 ans avec le Lokomotiv Moscou avant de quitter le club moscovite un an plus tard en raison notamment d'une baisse de salaire. Le Lokomotiv avait alors saisi la chambre de résolution des litiges de la FIFA pour rupture abusive de contrat. Eh bien, l'instance lui avait donné raison et avait obligé l'Astana Diyarra à s'acquitter d'une amende de 10 millions d'euros avec interdiction de s'engager dans un autre club avant 15 mois.
Enfin, le Tour d'Espagne en cyclisme.
Le Français Alexandre Genier s'est imposé en solitaire en Galice à l'issue de la 3e étape du Tour d'Espagne hier, qui a vu Alberto Contador concéder du temps sur les autres favoris à la victoire finale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau au micro, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, c'est ce mardi que l'opposition a appelé à une journée ville morte. Elle veut dénoncer ainsi la décision du facilitateur de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, d'entamer les travaux préparatoires du dialogue national en vue d'élections apaisées. Mais un autre groupe d'opposants pense que cette action ville morte n'est pas suffisante. Le professeur John Malala est membre du comité de coordination des forces acquises à la transition sans Kabila.
La ville morte en elle-même, qu'est-ce qu'elle va accomplir? Parce que ce sont des choses qui n'ont pas de l'impact. Une seule ville morte et après la ville morte, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est pratiquement rien. Si M. Étienne Tshisekedi voulait faire quelque chose, vraiment, s'il était très, très sérieux, ce qu'il allait faire, c'est de demander le peuple à une désobéissance complète. Mais déclarer une journée morte, qu'est-ce que cela va accomplir? On doit mener des actions, désormais, qui vont faire comprendre à M. Kabila que le peuple, on ne va pas se jouer du peuple congolais. Il faudra, coûte que coûte, qu'il puisse démissionner et que l'on puisse donner la place à un leadership neutre qui va aider les pays à pouvoir aller aux élections transparentes.
Donc, si on comprend bien ce que vous proposez, ce sont des actions radicales.
Il faut des actions sur terrain. Le mot, on peut appeler radical ou pas, mais ce sont plutôt des actes de désobéissance. La population congolaise doit s'engager à une certaine désobéissance et doit manifester d'une façon continuelle jusqu'à ce que Corneille Nanga puisse démissionner et jusqu'à ce que M. Joseph Kabila puisse démissionner et que l'on puisse laisser la place à des personnes qui vont aider le pays à avancer dans une transition qui amènera aux élections transparentes. Et crédible. Si Kabila était éligible, les élections présidentielles auraient bel et bien eu lieu en 2016 dans les délais constitutionnels. Nous voyons dans l'histoire récente, ça nous renseigne qu'en 2006, dans une situation d'après-les-guerres, on avait les fichiers électoraux qui avaient été construits en 6 mois. Et nous parlons aussi qu'en 2011, les fichiers électoraux n'avaient pris que 4 mois. Alors, en 2016, Corneille Nanga veut nous parler d'un fichier électoral qui doit lui prendre un minimum de 16 mois. Le monsieur doit démissionner, il est incompétent et il est corrompu par les pouvoirs en place.
L'opposition organise cette journée de ville morte au lendemain de libération de certains opposants qui avaient été arrêtés. Est-ce que ce n'est pas le signe que le pouvoir veut quand même mettre bas la terre?
Je pense que vous utilisez le terme l'opposition. Ce n'est pas toute l'opposition. Ça, c'est surtout le rassemblement qui est un fruit de la machination de Tshisekedi et son ami Soriano, alias Moïse Katumbi. Si le rassemblement voulait vraiment en découdre avec M. Edem Kodjo, qui est aussi en train de travailler pour le compte de Joseph Kabila, et si le rassemblement voulait obtenir son départ d'autre part, donc tout en poussant le pouvoir en place à se conformer aux prescrits de la Constitution des résolutions 2277, et puis la CENI devait se sentir coincée au point où on ne pouvait pas se jouer des gens. Monsieur Tshisekedi est en train de prendre des actions qui vont endormir le peuple congolais.
Le professeur John Malala, joint en Floride, ici aux États-Unis, par Bagassi Koura.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En République centrafricaine, plusieurs personnes accusées de charlatanisme ou de sorcellerie sont battues ou lynchées par la foule. Cette pratique gagne du terrain beaucoup plus à l'intérieur du pays où l'autorité de l'État peine à être rétablie en raison de la crise que le pays a connue, nous dit de Bangui, Freeman Sipila.
Entre janvier et août 2016, au moins 110 personnes ont été accusées de sorcellerie ou de pratiques de charlatanisme en République centrafricaine. Ces personnes ont subi des traitements parfois inhumains, arrestations arbitraires, exécutions par des membres des groupes armés, lynchage par la foule ou encore forcées à quitter leur localité. Mi-août, au moins une personne est morte et une trentaine de maisons sont incendiées suite à une scène de jalousie qui a tourné au drame non loin de la ville de Paoua dans le nord-est. La montée de la vindicte populaire, parfois en présence des forces de sécurité dépourvues de moyens, inquiète même à Bangui.
Évidemment, cela nous inquiète. Nous sommes dans la jungle que chacun de nous doit appliquer ce qu'il pense ou bien ce qui se laisser emporter par ses sentiments et agir.
Si on prend quelqu'un, soit disant que c'est un sorcier, on a quand même une loi centrafricaine qui est là. Il faut passer la personne à la justice, demander au lieu de faire des lois personnelles. Ça, je vois ça, c'est pas du tout normal.
Je pense qu'avec cette montée, il est temps qu'on puisse arrêter cette pratique parce que c'est pas bien de faire la justice à son niveau.
Pour l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, l'absence de la justice légale a laissé libre cours à la vindicte populaire. Son président, l'avocat Guy-Antoine Dangavo, appelle à des mesures judiciaires contre les auteurs de ces actes.
Nous pensons qu'il y a une justice légale, une justice institutionnelle, et donc c'est l'absence de la justice à des endroits qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos concitoyens pensent que le meilleur moyen, c'est de faire justice soi-même. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation, nous ne pouvons pas croiser les bras. Pour notre part, il faut que les autorités prennent à cœur cette situation pour mettre la main sur les auteurs de ces faits et les traduire évidemment en justice. Puisque la tendance est aujourd'hui à la hausse, et on constate que dans la moitié de l'arrière-pays, ces faits sont récurrents.
Le gouvernement, tout aussi conscient de cette situation, rappelle que des dispositions sont déjà prises pour que les auteurs des actes de justice populaire soient sanctionnés en conformité à la loi. Flavien Mbata, ministre centrafricain de la justice.
Les auteurs de ces cas de justice populaire doivent répondre de leurs actes devant la loi et ce, en tenant compte des dispositions constitutionnelles. Je suis en train donc d'instruire par circulaire tous les procureurs généraux et tous les procureurs de la République de notre pays, tous les OPJ de veiller dans leurs différents ressorts au strict respect de la loi fondamentale de notre pays ainsi que du code pénal.
Le week-end dernier, trois femmes accusées de sorcellerie, frappées, ligotées et jetées dans la rivière Ouam dans le nord du pays, ont surpris leur bourreau. Elles ont réussi à s'en tirer saines et sauves. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Maintenant, le milieu de la drogue au Burkina Faso avec le tramadol, ce psychotrope que les jeunes ont adopté comme remontant, ignorant ses conséquences sur la santé et les problèmes de société que cette drogue crée. De Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
Le Burkina Faso, de par sa situation géographique, est un pays de transit de la drogue. Malheureusement, celle-ci ne fait pas que transiter, nous a dit Mme Mariam Diallo-Zoromé, secrétaire permanent du CNLD, Comité national de lutte contre la drogue. Suivant avec elle, le glossaire des drogues au Faso.
On remarque qu'en plus de tramadol, nous avons des produits qu'on appelle missiles, il y a des produits qu'on appelle pointeur de balai. Ce sont des produits pharmaceutiques dont sur les fourreaux, on voit une vieille personne en train de jouer au ballon. Nous avons aussi des aspirines où nous voyons l'éléphant dessus. Donc, ce sont des produits qui ne sont pas vendus dans les pharmacies, mais qui sont vendus dans la rue et que les populations prennent. Et malheureusement, ces populations ne savent même pas que cela, c'est de la drogue.
À côté des problèmes de santé, la nouvelle tendance qu'est le tramadol pose aussi des problèmes de société. Issouf Belem, attaché de santé mentale, explique.
Et il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, le tramadol est une drogue largement utilisée dans nos écoles. Les élèves se disent qu'en consommant le tramadol, cela ouvre l'esprit. Malheureusement, les conséquences sont multiples. Quand vous êtes coupé de la réalité, c'est des bras valides en moins. Et pour votre famille, vous êtes pratiquement inutile. Vous êtes un poids que la famille traîne. Mais il y a aussi les braquages que nous constatons sur les routes. Vous comprenez que lorsque vous êtes sous l'emprise d'une drogue, vous n'avez peur de rien.
La consommation du tramadol est une réalité au Faso. Mais quel consommateur va avouer? Nous avons essayé avec Zakaria Wanga, jeune menuisier.
Je n'ai jamais pris ça, mais j'ai entendu parler. Quand tu prends ça, que ça remonte. Tu travailles fort, mais à un certain moment maintenant, si ça te laisse, tu deviens vraiment un peu bizarre, quoi. Ouais, les maçons, les menuisiers, il y a d'autres qui prennent ça. Mais en tout cas, comme moi, je suis dans le domaine, je ne prends pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça fait, mais j'ai entendu parler de ça.
Puis, avec Rasmane Zongo, lui, il est mécanicien.
Moi, j'ai entendu que quand tu es faible, tu prends tramadol, ça te remonte pour que tu vas bien travailler. Moi, je voulais faire mon vaccin, là, dit qu'il ne faut pas faire là. Moi, je n'ai pas essayé même pour savoir comment ça fait. Mais les gens parlent comme que quand tu prends ça là, tu peux balader, vendre ce que tu m'as senti là. Toute la journée, j'ai dit ça. Mais moi, je ne connais personne qui m'a dit qu'il prend ça là pour faire. Le surcage pour faire.
Finalement, c'est Sayuba Ouedraogo qui a osé franchir le Rubicon.
C'est mon petit frère qui a amené deux comprimés. Quand je n'ai qu'à prendre ça. Ah, quand j'ai pris ça, mon visage, tout s'est changé. J'ai vomi beaucoup. Ma mère dit, quand j'ai pris ça, mon palis, ça va partir. Ou la fatigue, tout, ça va partir. Je vais bien travailler. Ah, moi-même, je me cherche. Je ne peux pas me réveiller même pour marcher même. Pour me laver là, je n'ai même pas lavé. Deux jours même, j'ai pris l'eau même matin à boire là. Ça voulait démarrer encore. Moi, je dis aux gens, il n'a qu'à 30 avec Carmazol là. C'est un mauvais médicament.
Zoumana Wounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Présidentielle américaine 2016, Tim Kaine, colistier d'Hillary Clinton, en quête du soutien de la classe moyenne, il s'est adressé aux travailleurs de la métallurgie lors de leur congrès annuel qui s'est tenu hier à Las Vegas. Quant au candidat républicain Donald Trump, il a enjoint Bill et Hillary Clinton de fermer la Fondation Clinton, qualifiant cette organisation caritative d'entreprise la plus corrompue de l'histoire politique. Jacques Aristide.
Comme à l'accoutumée, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Les Clinton, dit-il, ont passé des décennies à se remplir les poches en s'occupant de leurs donateurs au lieu des Américains. Le candidat républicain a appelé la Fondation Clinton à rendre les dons aux pays qui, d'après lui, ont discriminé contre les femmes et les gays, une allusion à l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ont versé des millions de dollars à la Fondation au cours des années pendant lesquelles Hillary Clinton dirigeait la diplomatie américaine de 2009 à 2013. Le camp républicain parle de conflit d'intérêts. Des messages ont également été découverts récemment dans lesquels un proche de Bill Clinton à la Fondation écrivait à deux proches collaborateurs d'Hillary Clinton au département d'État pour demander à ce qu'un donateur de la Fondation, le milliardaire libano-nigérian Gilbert Chagouri, soit reçu par un responsable diplomatique américain au Liban. En fin de semaine dernière, Bill Clinton a annoncé qu'en cas de victoire de sa femme en novembre, sa Fondation n'accepterait plus de dons en provenance de l'étranger ou d'entreprises et que lui-même a démissionné du conseil d'administration. Le directeur de campagne d'Hillary Clinton, Robbie Mook, a lui rappelé que la fondation fournissait des traitements contre le sida à plus de 10 millions de personnes ou qu'elle avait réduit le coût des médicaments contre le paludisme de 90%.
Et Jacques, pour sa part, le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Kaine tente donc de consolider le soutien des cols bleus.
Oui, l'appui des cols bleus, les Blue Collar Workers, comme ils sont connus ici. Pour ce faire, Tim Kaine a eu l'aide de son père, Al, qui était à ses côtés à Las Vegas hier, lors du congrès des travailleurs de l'industrie de la métallurgie américaine. Al Kaine était lui-même propriétaire pendant 20 ans d'un atelier de la ferronnerie et de la métallerie à Kansas City, dans le Missouri. Et il a également fait partie pendant longtemps du syndicat défendant les droits des travailleurs dans ce secteur. La classe ouvrière américaine est très courtisée par les deux camps rivaux, en particulier dans les États du Midwest, devenu un véritable champ de bataille entre démocrates et républicains. Donald Trump accuse Hillary Clinton de n'avoir rien fait pour empêcher la stagnation des salaires et la perte d'emplois manufacturiers. Toutefois, les principaux syndicats représentant les ouvriers dans le pays ont déjà donné des consignes de vote en faveur de la candidate Clinton, leur soutien étant virtuellement toujours acquis par la base démocrate.
Jacques, pour terminer, ajoutons que sous pression, la Fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton va se réformer pour éviter tout conflit d'intérêts en cas d'élection de Hillary Clinton à la Maison-Blanche en novembre. C'est ce qu'a confirmé Bill Clinton lundi en détaillant la transition envisagée. La fondation sera renommée Fondation Clinton et M. Clinton démissionnera du conseil d'administration. La fondation caritative, qui a levé quelque 2 milliards de dollars depuis sa création en 2001 pour des actions dans la santé, sida, paludisme, le développement et le climat, est assaillie de critiques des républicains qu'il accuse d'être un véhicule de trafic d'influence du couple Clinton. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.